Bonjour, ici Brian Dionne. Aujourd'hui à Profil, Jean-François Préfontaine.
Alors Jean-François Préfontaine, d'où ça vient? D'où viens-tu et où habites-tu maintenant?
Ben écoutez, je viens de la rive sud de Montréal. J'ai grandi à Brossard, une belle banlieue de la rive sud de Montréal. Quand j'étais tout jeune, j'ai passé 2 années en Afrique parce que mon père a travaillé là-bas. Et puis ensuite, j'ai migré un petit peu vers différentes villes pour le travail. J'ai travaillé entre autres à Ville-Marie, au Témiscamingue. J'ai travaillé un petit peu à Sacré-Cœur, au Saguenay, ben en fait, près de Tadoussac. J'ai travaillé à Terrebonne, j'ai travaillé longtemps à Drummondville aussi, avant d'arriver ici dans la région de Bellechasse. Maintenant, je demeure à Saint-Anselme. Donc, j'ai un parcours qui m'a amené à voyager un petit peu au Québec, mais c'est vraiment quand même pertinent parce que ça permet de voir différentes régions puis d'expérimenter dans différents contextes de travail.
Excellent, Jean-François. Dis-moi, ton parcours scolaire, est-ce que c'est un parcours atypique ou tu as suivi une ligne très droite vers un des plus beaux parcs du Québec?
Un des plus beaux parcs, assurément. Un parcours atypique, je ne sais pas. Probablement un parcours assez traditionnel parce qu'après le cégep, j'ai fait un bac en urbanisme. Pourquoi l'urbanisme? C'est que je m'intéressais vraiment à plusieurs choses comme la géographie, l'histoire, un petit peu la politique, le design urbain. Bref, en urbanisme, on touchait un petit peu à toutes ces matières-là. Contrairement à la géographie, j'ai pensé faire un bac en géo, mais je ne me voyais pas nécessairement enseigner. Puis à l'époque, il n'y avait pas énormément de débouchés à part l'enseignement. Donc, le bac en urbanisme, ensuite, je ne me sentais pas nécessairement prêt à travailler après mon bac. Donc, j'ai fait une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, ce qui est venu compléter un petit peu le bac. Donc, c'était une dimension un peu plus régionale. Et un peu plus tard, pour insérer le marché du travail, je suis allé faire une maîtrise en administration des affaires au HEC. Donc là, j'étais allé m'outiller un petit peu pour faire un peu plus de gestion. Donc, un parcours quand même assez traditionnel dans la mesure où j'ai enchaîné ces formations-là. Mais je ne peux pas dire qu'étant jeune, je savais nécessairement vers où j'allais, dans quel domaine j'allais travailler. Il y en a pour qui, des fois, c'est très clair. Là, on veut être ingénieur, médecin. Bon, dans mon cas, il y a beaucoup de choses qui me passionnaient, puis c'est encore le cas maintenant. Alors, c'est un parcours quand même, au niveau académique, assez traditionnel, parce que j'ai enchaîné ces formations-là sans interruption à peu près, là, sauf quand j'ai fait la maîtrise en administration. Il s'est écoulé peut-être 2 ans à peu près entre ma maîtrise puis le MBA. Mais donc voilà, c'est pas mal ça mon parcours académique.
Précédemment, tu disais que ton père travaillait en Afrique. Est-ce que tu as fréquenté les écoles internationales?
Bien, j'étais très jeune. Donc, mon père travaillait pour l'ACDI. Il faisait de la coopération. Il a développé une école d'ébénisterie là-bas. Donc, j'étais très jeune. C'est de 0 à 2 ans. Donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais ça a quand même marqué beaucoup mon enfance dans la mesure où, quand on était jeune, l'été, quand il pleuvait, on regardait toutes les diapositives d'Afrique. Puis ça m'a quand même beaucoup imprégné. Je suis retourné faire un stage en urbanisme au Cameroun à 22 ans. Donc, ça m'a quand même marqué. Puis quand j'ai terminé après ça mon bac puis ma maîtrise, je voulais faire de la coopération. Finalement, j'ai eu des opportunités, mais j'avais trouvé du travail. Donc, j'ai mis ça de côté. Mais ça reste un rêve que j'ai, peut-être d'aller travailler à l'étranger un jour. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai pas été... au niveau scolaire, après ça, je suis allé à l'école alternative au primaire. Donc, en ce sens-là, c'est un petit peu atypique. Mes parents voulaient qu'on sorte un petit peu du cadre traditionnel. Donc, c'était très bien. Ça convenait pas à tous les jeunes. Les jeunes qui avaient besoin d'encadrement, c'était moins évident pour eux. Mais des jeunes qui pouvaient s'organiser, par exemple, planifier leur horaire, tout ça, là, c'était vraiment génial parce qu'on... On est amené à développer plein de projets, puis à toucher un petit peu à tout, la philatélie, la géographie, la cuisine, bon, peu importe. Là. Fait que c'était vraiment le fun.
On devine un milieu familial peut-être non conventionnel. Est-ce que vous aviez des habitudes de vie? Est-ce que vous étiez plus ouvert d'esprit? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette famille-là?
Mais Pas vraiment, parce que mes parents sont quand même relativement traditionnels. Mon père a été élevé sur une ferme à Belleuil, puis bon, c'était, il faisait le train à 5 ans. Puis après ça, il y a eu un parcours académique, il est allé aux études, il est devenu directeur adjoint dans une polyvalente, donc il y avait un métier professionnel. Ma mère avait enseigné étant jeune au primaire, puis après ça, ben, elle était à la maison pour nous élever et retourner travailler quand j'avais 16-17 ans. Mais je peux pas dire que mes parents sont complètement atypiques, c'est plutôt je dirais des parents normaux. Je sais que la normalité est très, très, très relative.
Effectivement, ça se discute.
C'est très discutable, effectivement, mais à mon sens, mes parents sont très conventionnels parce que c'est pas des gens qui ont fait des... ils ont pas été peace and love, ils ont pas fait partie de ce mouvement-là. Donc, c'est des gens qui venaient d'un cadre assez traditionnel au Québec. Ma mère vient de Verdun, donc mon grand-père était épicier. Puis bon, fait que non, c'est, je dirais pas que mes parents sont atypiques. Au contraire, mais il y avait cette liberté-là puis cette ouverture d'esprit-là pour nous envoyer, par exemple, à l'école alternative. Puis quand j'ai demandé à ma mère pourquoi, ben, elle dit, moi, je suis allé à l'école étant très jeune chez les sœurs. On se faisait taper sur les doigts. Puis elle dit, je voulais pas que vous ayez cette rigidité-là. J'aime beaucoup les voyages. J'aime beaucoup les voyages d'aventure, entre autres en Asie, en Amérique du Sud. J'ai voyagé beaucoup en Europe. Ça me passionne beaucoup, entre autres les voyages qui permettent de découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux paysages, de faire du plein air aussi, des treks, du vélo. Ça me passionne vraiment beaucoup. Puis, je l'ai dit, le plein air également au Québec, vélo, ski de fond, surtout particulièrement.
Alors, Jean-François, parle-moi de tes activités professionnelles actuellement. Là. Qu'est-ce que tu fais actuellement?
Bon, actuellement, je suis directeur du parc régional du Massif du Sud dans Bellechasse-Etchemin. Donc, c'est quatre municipalités, là, Saint-Luc, Saint-Magloire, dans les Etchemins, Saint-Flémont, Buckland, dans Bellechasse. Donc, je suis directeur du parc depuis janvier 2012. J'ai entamé ma septième année déjà. Ça va quand même relativement vite. Donc, comme directeur, mes fonctions, c'est... Je t'amène un petit peu, je suis un généraliste, en fait. Donc, je touche un peu à tout. Évidemment, un peu la planification financière, tout ce qui concerne l'expérience des visiteurs, parce qu'on est dans une offre de service au parc. Le partenariat aussi, les communications, le marketing. Donc, je touche un petit peu à tout, les relations avec le conseil d'administration. Donc, il y a un aspect un peu politique également. Donc, c'est intéressant parce que c'est un travail qui a plusieurs facettes, qui demande d'avoir une bonne écoute, une bonne communication aussi, d'être sensible aussi à ce qui se passe dans le milieu, être sensible au message des élus. Donc, ça, c'est un peu mon travail. Puis, je travaille avec une équipe. Je considère qu'actuellement, on a peut-être la meilleure équipe au parc qu'on n'a pas eue depuis que je suis là. On a une équipe très, très solide. Puis c'est quand même motivant. C'est des gens qui sont très compétents, des gens qui sont motivés. Puis ça se répercute au quotidien dans le travail. Puis dans les sondages de satisfaction, on l'entend des clients. Les clients nous le disent. Vous avez votre personnel d'accueil est excellent. Donc, je suis un petit peu un motivateur aussi. En fait, je suis à l'écoute des employés, puis des besoins, puis des attentes. C'est un peu ça. Mon rôle, c'est de canaliser tout ça, puis de prendre des orientations, puis des décisions aussi de gestion.
Quand on entend Massif du Sud et qu'on n'habite pas la région, on peut être amené à se tromper. Hein? Il y a deux Massifs du Sud.
Ouais, ouais.
Donc, comment on gère ça, là, cette histoire-là, parce que ça ne doit pas être évident à gérer?
Ben, effectivement, il y a un Massif du Sud, il y a deux entités qui sont présentes au Massif. C'est, je dirais que ça n'a pas été évident, mais parce que là, on fait allusion en fait au conflit juridique. On est allé en cours pour une question quand même relativement simple, là. C'était l'utilisation des terres publiques, le droit d'utiliser les terres publiques en vertu de la loi sur les terres du domaine de l'État. Donc, il y avait une interprétation différente de part et d'autre, ce qui nous a amené à porter le dossier en cours pour trancher cette question-là, pour demander au juge de trancher cette interprétation-là. Donc, je dirais que maintenant, étant donné que le conflit est de notre côté, est derrière nous depuis plus d'un an, on a gagné en cours, on regarde un peu plus. En fait, on essaie de travailler au développement du parc. On se concentre vraiment sur le mandat, on se concentre sur le développement du parc, on se concentre sur le partenariat. Puis, ben, on le voit un petit peu avec les résultats. En 2017, on a eu une augmentation de 17,5%. On a franchi le cap des 31 000 de fréquentation. Quand je suis arrivé, c'était 5-6 000. Bon, on opérait seulement l'hiver, l'été aussi. Donc, le parc est en, la locomotive est partie. Le parc se développe. Les clientèles qui fréquentent le parc l'apprécient beaucoup. Le potentiel est là. Je dirais que maintenant, on attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années. Mais chose certaine, c'est que lorsque la situation va s'améliorer, le parc régional va continuer à se développer. Puis ça, c'est au profit des collectivités du milieu, des collectivités de la région, parce que la majeure partie des clientèles qui fréquentent le parc, c'est surtout des clientèles de Québec-Lévis. Des fois même de plus loin, durant les longs congés, les vacances de la construction. Les vacances de la construction au parc ou le temps des fêtes, ça vient de partout au Québec, en fait. Puis on voit une augmentation aussi des clientèles ontariennes. Donc, pour répondre un petit peu à la question, ça a été très difficile. Ça va mieux. Puis ça va sûrement s'améliorer dans les prochains mois.
Quand on est un leader dans son milieu, forcément, on est impliqué. Ouais. À l'extérieur de notre bureau, à l'extérieur de notre, ouais. de notre lieu d'activité. Ouais. À quel point tu es impliqué dans notre communauté?
Bien, je t'ai amené. Moi, je suis quelqu'un d'assez discret, là. Je suis impliqué sur différentes tables de travail. D'ailleurs, on s'est connus sur une table de travail avec ce qu'on appelait le pôle 3 dans notre jargon, là, avec la commission scolaire, avec l'école de Saint-Damien, avec le Carrefour Jeunesse, bon, avec différents partenaires du milieu pour essayer de travailler le dossier scolaire, entre autres, puis l'insertion, la découverte du milieu. Puis du territoire auprès des jeunes. Donc ça, je suis impliqué donc sur différentes tables de travail dans la région au niveau touristique, tourisme Bellechasse, tourisme Etchemin, on est présent. La nouvelle table régionale touristique aussi, on a eu le forum cette semaine. Donc je suis impliqué un petit peu à ce niveau-là, indirectement avec la contrée, sur différents... Quand la contrée est démarrée, en fait, en 2012-2013, il y a eu des consultations, des grands rendez-vous. Moi, j'étais présent aussi à ce niveau-là. Donc, dans la région de Bellechasse-Etchemin, je suis sur différentes tables de travail. Des fois, c'est des mandats plus spécifiques. On est amené des fois à se prononcer ou on est interpellé sur des projets de développement.
Quels sont les principaux défis auxquels tu fais face actuellement dans tes activités?
Oui, c'est sûr que quand on fait de la gestion, il y a des défis au quotidien, il y a des défis opérationnels, mais ça, c'est normal. Puis il y a des défis qui sont plus stratégiques, qui sont reliés au positionnement, qui sont reliés au développement du parc. Les principaux défis, je dirais qu'ils sont actuellement reliés à la croissance du parc, parce que quand le poste d'accueil du parc a été construit, on ne prévoyait peut-être pas un achalandage aussi grand. Donc, actuellement, la configuration du poste d'accueil est un peu déficiente par rapport à la fréquentation qu'on a. Donc, il faut réorganiser l'accueil pour qu'on soit plus efficace, plus performant, passer un peu moins de temps avec chacun des clients. Il faut qu'on améliore aussi la signalisation sur le terrain. Donc, ça, c'est des enjeux un peu opérationnels. Au niveau plus régional, il y a un enjeu aussi d'appropriation du territoire. Les gens de la région, étonnamment, connaissent... je vais te devancer un petit peu, mais les gens de la région connaissent le territoire, connaissent le Massif du Sud. Moi, je reste à Saint-Anselme, mais on parle des Hauts. Bon, les gens vont fréquenter le Massif beaucoup pour le ski alpin, pour le quad, la motoneige, mais... Je pense que les gens de la région ne connaissent pas très bien le réseau plein air du parc. Puis malheureusement, parce que, si on n'avait pas de parc éolien, on aurait peut-être la capacité d'être un parc national. Ça a déjà été évalué. Il manquait peut-être un plan d'eau à l'époque. Je pense que c'était l'analyse de l'ACPAC. Mais c'est un territoire vraiment exceptionnel. Je fais beaucoup de plein air partout. Puis le Massif du Sud, avec les forêts qu'on a, les strates forestières, les sommets, les cours d'eau, c'est vraiment magnifique. Donc, un des défis, c'est que les gens découvrent leur territoire, se l'approprient. Ça, c'est un défi plutôt régional. En termes de marketing, on a un défi de positionnement aussi. Les gens qui font du plein air au Québec sont en croissance. Tout le monde fait du plein air à peu près maintenant. Moi, quand j'ai commencé à 18 ans, on était un peu marginaux. On était grano. Bon, maintenant, à peu près tout le monde se plaît à dire qu'il fait du plein air puis s'habille avec des manteaux Arc'teryx. Bon, tant mieux, parce que ça démocratise le plein air. Par contre, les gens qui font du plein air vont connaître beaucoup la CEPAC, le réseau des parcs nationaux du Québec ou les parcs nationaux du Canada, de Parcs Canada. Il y en a quand même juste trois au Québec. Mais donc, les standards de la CEPAC sont très élevés en termes d'expérience, en termes de qualité, en termes de paysage. Et les gens voyagent, les gens comparent. Alors, les gens fréquentent les parcs régionaux, dont le Massif du Sud, avec des standards puis des attentes de plus en plus élevées. Alors, puis parallèlement à ça, il y a un défi de positionnement. Donc, il faut qu'on puisse se comparer et se distinguer des parcs nationaux. On sait que la CEPAC a une force de frappe considérable au niveau marketing. Donc, c'est difficile quand même avec les moyens qu'on a de concurrencer sur le plan marketing. Des parcs aussi, la CEPAC, c'est un réseau. Donc, il y a un défi de positionnement. Puis, c'est ça, je l'ai mentionné brièvement en introduction, mais il y a un défi aussi de mise à niveau des infrastructures du parc, les sentiers, les ponts. On pense qu'aller marcher en forêt, on marche sur des sentiers, oui, mais il y a beaucoup de travail d'aménagement qui est fait derrière ça. Il y a du drainage qui doit être fait, les ponts, toutes les infrastructures, ça mérite beaucoup d'entretien. Donc, il y a un enjeu de mise à niveau à court terme. Donc, il faut qu'on investisse pour refaire des structures puis des infrastructures pour maintenir la sécurité dans les sentiers puis dans le réseau, puis maintenir un niveau de qualité, d'expérience, de visite dans le réseau puis en forêt.
Je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude, Jean-François, mais est-ce que le financement qui accompagne vos activités est pertinent?
Bien, c'est clair. Moi, je pense que si le parc existe toujours maintenant, c'est parce qu'il y a une mobilisation très, très forte des MRC qui ont réussi à négocier avec le gouvernement pour que des redevances du parc éolien retournent pour le financement opérationnel du parc. Donc, dans la structure actuelle, les revenus immobiliers de 29 éoliennes retournent aux MRC et les MRC reversent cet argent-là au parc pour le fonctionnement. Ça, c'est le financement du parc, plus le financement d'exploitation. Donc, les revenus qu'on génère par la fréquentation, donc les droits d'accès, les revenus qu'on génère par l'hébergement. Donc, ça, c'est la structure de financement du parc. On est admissible aussi à des subventions. On est un OBNL, donc on est admissible à des programmes de subventions. Quand on peut, on va chercher des sous. Moi, je préfère faire atterrir les sous en région qu'ailleurs au Québec. C'est aussi ça mon mandat, parce que quand on développe le parc, on embauche localement, on donne des contrats de service localement. Alors, c'est aussi ça, un parc régional, c'est d'essayer de stimuler puis favoriser la croissance économique dans son milieu. Alors, dès qu'on peut, on favorise tout le temps une entreprise de belle chasse et de chemin. Quand on sort de la région pour des contrats, c'est parce qu'on ne peut pas donner le contrat dans la région immédiate. Donc, je pense que la structure de financement est quand même adéquate. Le défi, c'est que le plan de financement avec les éoliennes, c'est 20 ans. On est dans la 7e année. Il faut qu'on développe une structure de financement qui va nous permettre d'être opérationnel à 100% au-delà du 20 ans. Je n'ai pas particulièrement de mentor, mais je m'inspire beaucoup au quotidien des personnes qui, je trouve, ont une capacité d'analyse, une capacité de réflexion, qui sont engagées dans leur milieu. C'est des gens qui sont souvent, qui ont des convictions aussi. Donc ça m'aide aussi à canaliser mon énergie, puis ça me motive vraiment beaucoup.
Donc, Jean-François, toi qui n'as pas grandi en Bellechasse, quand tu es débarqué ici, ni dans les aides-chemins, évidemment, quand tu es débarqué ici, qu'est-ce qui t'a frappé?
Bien, je dirais que c'est les paysages. Je dirais la transition des paysages, dans Bellechasse particulièrement, parce que j'habite dans Bellechasse, mais la transition des paysages entre le fleuve, le Piémont, si on veut, puis ce qu'on dit dans la région, les Hauts, donc le secteur du Massif du Sud, le sud de Bellechasse. Il y a toute une transition bioclimatique vraiment intéressante. Puis quand on est à Saint-Michel-de-Bellechasse, moi, je trouve vraiment qu'on a un paysage, une vue extraordinaire sur l'île d'Orléans, sur la rive nord. Donc les paysages, assurément, la gentillesse des gens. Les gens sont extrêmement gentils, sont très, très fiers d'habiter le territoire. Moi, j'ai des employés qui restent à Saint-Magloire, puis on sent vraiment la fierté d'habiter à Saint-Magloire. Puis c'est Saint-Flémont aussi, Arma. Donc, la fierté d'habiter le territoire, puis l'authenticité. J'ai habité dans plusieurs régions au Québec. Je peux dire que l'authenticité, je l'ai senti, mais quand on approche de la région de Montréal, en Montérégie, un peu moins. Tu sais, moi, à Brossard, il y a eu des vagues d'immigration, des Vietnamiens, des Chinois dans les années 80. Bon, fait que le sentiment d'appartenance est moins présent, mais ici, on le sent vraiment. Le sentiment d'appartenance est très, très fort. Alors, cette authenticité-là est vraiment très palpable. Okay. Puis, c'est ce qui m'a marqué.
Puis la communauté d'affaires?
La communauté d'affaires, ben moi, je travaille surtout avec la communauté d'affaires dans le domaine touristique, particulièrement avec les gens le réseau des arrêts gourmands, qui est très, très structuré dans notre région, surtout dans Bellechasse. Je trouve qu'on a un beau terroir, on a des belles entreprises. Je pense, entre autres, avec des gens avec qui on travaille, comme Cassette-Sémélis, avec le Ricaneux à Saint-Charles, avec le Pop de la Contrée. Pour nous, toutes les entreprises agroforestières sont un plus, parce que les gens qui font du plein air, ce sont des gens aussi qui s'intéressent au terroir, qui veulent bien manger. Donc, c'est des produits qui sont complémentaires. Je pourrais pas passer à côté aussi de la station de ski, qui est un moteur aussi du développement touristique et économique dans Bellechasse puis les Etchemins. Donc, c'est un incontournable avec qui il faut arriver à faire du partenariat pour consolider un peu le développement au Massif du Sud. Puis je pense que dans quelques années, on sera en mesure de le faire puis d'y arriver. Puis donc, ça va permettre ce développement-là de consolider un petit peu la vitalité des villages du sud de Bellechasse puis du nord des Etchemins.
Si tu avais un pouvoir décisionnel dès demain matin,
ah oui, une baguette magique.
Le samedi, hein, parce qu'il n'y a pas de journée pour prendre des décisions,
ouais.
Quel aspect du développement régional tu mettrais de l'avant?
Ben, c'est sûr que je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Je pense que le tourisme est un vecteur de développement sur nos territoires, autant dans la Bellechasse que dans les Etchemins. Je pense qu'il faut miser sur le tourisme, d'autant plus qu'on est quand même à proximité de Québec-Lévis. Les gens de Québec, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont très portés vers le nord, vers le parc de la Jacques-Cartier, vers le Bras du Nord pour le vélo de montagne. On dirait qu'il y a une barrière psychologique à traverser le pont, mais pour faire des escapades ou même des sorties de 2 jours, 3 jours, je pense que le marché de Québec est très pertinent puis est quand même pas très, très loin. On n'est pas excentré tant que ça par rapport au grand pôle urbain. Lévis se développe aussi beaucoup. Donc, je pense qu'il y a une possibilité de continuer de développement touristique. Au niveau agro également, puis je pense qu'au niveau forestier, ça serait bien que... Je sais que les Etchemins étaient davantage une MRC axée sur la forêt. C'est sûr que là, il y a des problématiques peut-être un peu plus structurelles reliées à l'économie globale, si on veut. Mais j'espère que l'économie forestière va redémarrer au profit aussi des Etchemins.
Tu parlais de nos amis urbains de Québec et de Lévis. Mm-hmm. Est-ce que les routes que ces gens-là empruntent sont convenables pour se rendre au Massif Sud? Est-ce que prendre 1h15, c'est quelque chose d'agréable pour faire Lévis au Massif Sud?
Ça fait, tu sais, dans le domaine où je travaille, on parle beaucoup, ben, en fait, dans tous les domaines, là, de l'expérience des visiteurs. L'expérience des visiteurs, ça se résume en 7 étapes. On rêve d'aller au Massif du Sud parce qu'on a entendu parler du Massif du Sud, comme on rêve d'aller à Paris parce que c'est magnifique, Paris. Donc, il y a le rêve. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on a rêvé de la destination? On la planifie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace. Donc, les routes sont reliées beaucoup à l'étape du déplacement. Ensuite, on arrive à destination. Ensuite, donc, c'est l'accueil, l'immersion. On fait l'activité. On quitte avec un souvenir, puis on revient avec ce souvenir-là qu'on partage. Donc, les routes sont adéquates dans la mesure où les routes sont authentiques et permettent de traverser Bellechasse, puis de voir qu'est-ce que c'est Bellechasse. Puis moi, je suis surpris aussi des fois d'entendre que même pour les gens de Bellechasse ou des Etchemins, le massif, c'est loin. Alors, mais je pense que les gens qui font du plein air aiment explorer différents parcs, aiment diversifier leurs expériences. Moi, je pense que je suis très représentatif des clientèles de plein air. Puis à chaque année, j'essaie d'essayer des nouveaux centres de ski, d'aller dans d'autres parcs, de faire d'autres randonnées, donc de diversifier mes expériences. Alors, je pense pas que ça soit nécessairement un frein. Au contraire, ça fait partie de l'expérience, puis ça permet de découvrir un peu le pays.
C'était Profil avec Jean-François Préfontaine. Merci à Isabelle Giasson pour le support technique. Merci à Passion FM pour le micro. Mon nom est Brian Dionne. À bientôt.